On peut y aller ?
On peut y aller.
Le transfert, c'était
le truc. Non, parce que je préfère que les gens parlent, moi. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé, hein. Vous m'avez demandé d'animer un débat. Donc, je vais juste dire deux mots après l'IA, mais c'est difficile de parler après toi. Parce que moi, je suis moins un poète. Je sais plus, j'ai oublié en fait comment je suis arrivé dans cette histoire pour coordonner le bouquin. J'ai complètement oublié, mais il y a un moment donné, on a dû avoir des mails. Et je sais plus pourquoi on a eu ce mail qui a fait qu'un moment. J'ai dit, mais il y a la poétique du Coran, pourquoi on ferait pas la politique aussi? Et alors, l'IA et Jean m'ont pris au mot, ils m'ont dit, tu fais un petit texte, et puis on y va. C'est ça qui est bien ici, hein, c'est qu'on. On a de la liberté. Et donc j'ai fait un texte, vous l'avez accepté, et puis c'est parti. Peut-être, je sais pas, trois semaines après que tu es. Il me semble. Hein. C'est-à-dire, c'était plutôt dans les le deuxième tiers du confinement et le déconfinement après. Hein. Et donc, ce texte, bon, que vous avez certainement vu aussi, passait, insistait sur le fait qu'il y avait des questions qui étaient politiques. Qui était posé par cette espèce de parenthèse dont on ne savait pas à l'époque combien de temps elle avait duré. Et l'idée, c'était quand même de ne pas définir ce qu'était la politique ou le politique. C'était de dire qu'il y avait des questions politiques et de laisser les personnes qui avaient envie de faire des textes, des témoignages ou d'envoyer. Jean m'a beaucoup envoyé de photos. Je suis m'organisé de toi. J'ai pas. C'est vrai qu'on pourrait les passer. C'est les photos que tu m'as envoyées, donc qui parlent. C'est les murs qui parlent sur la Covid-19 et c'est très intéressant. D'ailleurs, on va les mettre dedans. Mais on a surtout des textes, on a des photos et on a aussi des auto-autorisations. Vous savez que se faisaient les personnes parce que la loi les obligeait à les faire. Alors il y avait des papiers qui étaient préparés, enfin qui étaient pas manuscrits, et puis il y avait des personnes, apparemment, je ne sais pas trop, qui étaient plutôt des personnes âgées, qui faisaient leur autorisation en écrivant à l'ancienne, avec les plaints et les déliés. Enfin, donc on va le mettre aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a plusieurs publics en fait auxquels on ne pense pas. Qui se mettent au travail parce que la loi les oblige à le faire pour aller faire pisser leur chien. Donc voilà. Alors peut-être pour mettre. Alors il y a eu. Alors pour être plus précis, moi au début ça a commencé doucement. Puis petit à petit par nos réseaux mutuels. Je pense que tout ça se fait quand même par interconnaissance. Hein. On a beau envoyer un appel comme ça dans le vide, des réseaux sociaux, c'est quand même des gens qu'on connaît. Petit à petit, il y a des textes qui sont arrivés. Au jour d'aujourd'hui, donc ça devrait être terminé, mais comme tu dis, on peut peut-être. J'ai un copain qui n'arrête pas de me dire, je te l'envoie demain, je ne l'ai pas encore reçu. Moi, pour l'instant, j'ai 20 textes. Voilà. J'ai essayé mais c'est complètement subjectif. J'ai essayé de voir un peu quels étaient les thèmes finalement que les gens abordaient quand ils pensaient poser une question politique. Il y a un certain nombre de textes qui viennent sur la question du lien. Donc on a un peu dit avec plus ou moins d'humour tout à l'heure, hein, masque, pas masque, l'espace, le risque de l'autre finalement. Hein, il y a un texte qui s'appelle comme ça, c'est le risque de l'autre. Le lien social, le fait qu'il y a à un moment donné la solitude, l'isolement, l'État qui s'occupe de nos corps, hein, comme si c'était les corps de l'État et pas les nôtres. Il y a ça qui vient pas mal. Il y a le rapport avec les médias, une critique assez qui vient deux, trois fois sur. Fake news, pas fake news, règles du jeu qui changent du jour au lendemain. Est-ce que tu peux expliquer un peu par rapport finalement à ta pause sur le déconfinement avec les ordres, les contre-ordres, enfin tout ça. Voilà. Et puis il y a quelques textes qui sont sur ce qui se passe à l'étranger. On a deux textes, un qui vient du Pérou et l'autre de la Colombie, qui donne un point de vue très partiel, hein, parce que c'est une personne qui témoigne. Il y a des textes qui viennent aussi sur la question de l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, puisque dans le confinement, on a commencé à catégoriser les populations en termes de vulnérabilité multiple, alors les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des maladies chroniques plurielles, etc. Et donc la question, il y a des textes qui viennent notamment de jeunes étudiants ou étudiantes de travail social qui ont reçu, je ne sais comment, cet appel et qui ont fait un texte commun d'étudiantes expliquant en quoi la Covid changeait en fait les règles du jeu de l'accompagnement social. Hein. Et puis il y a quelques textes qui effectivement nous parlent de l'après, en espérant que l'après sera différent que ce qui se passait avant. Donc des textes très critiques sur la marche du monde, notamment sur la question du rapport ou de la relation non prouvée mais affirmée quand même par un certain nombre de personnes entre la crise écologique et la Covid-19, avec la place des animaux, hein, et le lien qu'il peut y avoir entre les hommes qui sont aussi des animaux et puis les animaux, et notamment en termes de transmission de virus, mais aussi en termes d'interdépendance, avec l'idée que pendant le confinement, les chats pouvaient marcher au milieu de la rue. Et même si nous on marchait sur les trottoirs avec un mètre de distance, ça faisait quand même une différence. Et voilà. Et donc, j'ai pas le caractère. Je sais pas faire les compliments, mais j'ai envie d'en faire quand même là. C'est des bons textes, c'est des beaux textes, c'est des textes intéressants, intelligents. Avec là, tu parlais, je sais plus comment, de mosaïque ou de kaléidoscope. Il y a aussi ce côté un peu kaléidoscope, c'est-à-dire qu'on voit bien que selon aussi où ce que vivent les gens vivent des choses différentes et insistent sur des questions différentes. Alors si vous êtes une personne âgée qui va écrire, vous n'allez pas obligatoirement parler de la condition des personnes âgées dans le cadre du confinement, hein. C'est pas aussi simple que ça, hein. Mais par contre, vous pouvez avoir une personne qui va honorer ces morts qui n'ont pas été enterrés de façon digne, du point de vue des rituels culturels qui existent depuis des milliers d'années, et qui vont s'en scandaliser. Ça revient quand même aussi assez souvent. Voilà, donc... l'idée c'est plutôt que vous aussi, hein, qu'on témoigne tous un peu de la manière dont on a vécu ça. Alors je fais un petit préalable en fait, il s'agit pas, mais je crois que tout le monde a ça en tête ici, mais il s'agit pas de raconter nos difficultés personnelles, parce qu'on en a eu, hein, des difficultés personnelles pendant le confinement. C'est pas un groupe de parole thérapeutique. Mais par contre, on peut raconter des histoires, des anecdotes qui font que sur cette question du confinement, bon, toi tu ramenais l'idée qu'il y avait quelque chose qui était positif, qui avait à voir avec l'épanouissement et la réalisation de soi, quelque chose de l'ordre d'un temps qui permet une meilleure harmonie avec soi-même et donc possiblement avec le monde. Je ne sais pas si c'est partagé, donc on pourrait peut-être avoir un premier débat sur comment on a tous vécu le confinement avec les personnes qui ont envie de parler, puis celles qui ont envie d'écouter, elles écoutent. Et puis peut-être prendre un peu de temps après sur cet après. C'est quoi cet après tant désiré, mais aussi qui part un peu dans tous les sens? Ça serait quoi l'après? Ou est-ce qu'on est déjà dans le désenchantement de l'après, comme si c'était encore comme avant? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Et lesquels, et qu'est-ce qui a changé, qu'il faudrait qu'on continue de changer, enfin voilà. Je vous présente un peu, je vous propose un peu ces deux temps là, si ça vous va, mais si vous avez d'autres propositions, on peut faire autrement. Ça peut convenir.
Super.
Donc, ben voilà, la parole est à celui ou à celle qui a envie de la prendre sur son témoignage sur ces 60 jours extraordinaires. Ou pas d'ailleurs, peut-être très ordinaires.
Je vais mettre un peu d'oxygène et je reviens.
Oui, moi ce qui m'a semblé à la fois, c'est cette projection dans le futur qu'il y a eu, mais à la fois aussi, forcément, si c'est dans le futur, c'est par rapport au passé. Et moi j'ai été contacté par plein de personnes avec qui j'avais vécu des choses fort longtemps, dans le travail ou autre, des gens qui me recontactaient, qui disaient mais ce qu'on a vécu, tout ça c'était important. Et c'est ce double mouvement, dire que se projeter dans le futur, c'est forcément faire référence à un passé. Donc c'est, moi c'est ce qui m'a frappé, je ne sais pas si ça...
Moi, pour moi, la question du temps est devenue incroyablement différente. J'ai été confiné avec deux de mes enfants, qui sont des grands-enfants, et ma femme. Et on a fait le constat un jour avec mon épouse que le temps s'était arrêté. Pour la première fois depuis l'enfance, on était revenu à un temps où on ne pouvait plus se projeter dessus. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus prévoir de vacances, au niveau du travail, on ne savait plus comment ça allait se passer, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et du coup, on a retrouvé une sensation qu'on avait eue avec une amie africaine. Je pense qu'on a fait le rapport, qui, chaque fois qu'on la rencontrait, on avait l'impression effectivement que le temps s'arrêtait avec elle. Et on s'est retrouvé à faire des choses minuscules, quoi. On était confinés en maison, en ville, avec une toute petite cour, et il y a une bande de terre. Et cette bande de terre, on a fini par l'appeler notre domaine. Et on y descendait à tour de rôle pour faire des choses que moi j'avais fait gamin. Regarder des fourmis monter, aller, ah oui, tiens, mais là, sur cette plante, il y a telle race de pucerons, à côté c'est pas les mêmes. Ah, mais tiens, la vigne vierge, quand c'est en bourgeon, elle s'accroche au mur en tant que temps, ça sort. Je vais pas raconter le détail, mais s'intéresser à des choses minuscules, exactement comme quand on est petit. Et qu'on regarde des herbes, des coccinelles, tiens, regarde une coccinelle aujourd'hui, est-ce que tu as revu la coccinelle, enfin... Et comme si le temps était redevenu le temps présent, faute de pouvoir se projeter. Et ça, ça nous a beaucoup étonnés, quoi. Et avec l'intensité du temps, la possibilité de se poser dans le temps, puisqu'on parlait du temps, voilà.
Dans cette même image, pour moi, je l'ai vécu avec des acteurs différents d'une même planète. Et pour rebondir justement cette notion du temps, me dire qu'en tant qu'humain, le temps s'était, semble-t-il, arrêté, ou on ne savait plus ce que c'était, parce qu'on avait, humain, nous, décidé de le décompter de telle manière et de nous mettre dans des heures, dans des minutes, en fait, dans toute une vie programmée. Et de voir que, par contre, le printemps, plus symboliquement, moi, je trouvais que c'était toute la vie qui, en fait, se présentait face à nous, et que l'humain n'existait plus, et la vie, elle, continuait, en fait, avec cette puissance de la nature. Alors, oui. Bon, du coup, il y a eu les coccinelles, moi, ça a été les oiseaux. J'ai plein de copains oiseaux, en fait, dans les arbres, où j'ai pu voir tout ce qu'ils faisaient.
Puis des plantes qui poussaient dans les trottoirs, sans
aimer. Oui, voilà, c'était... C'était un peu cette image, effectivement, de dire, tiens, les animaux sont mis à très vite, en fait, automatiquement, de manière naturelle. Ah, c'est ça que je trouve très fort, en fait. Oui. Sans qu'il y ait de codification, ils ont repris une vie, enfin, la vie a continué. Le mouvement a été là, malgré le temps, qui s'était arrêté pour les humains. Et pourtant, on est sur la même planète. C'est déstabilisant.
C'est comme si les êtres humains se dégageaient pour laisser l'honneur à la nature de s'exprimer.
Tout à fait. Mais il ne l'a pas, on va dire, voulu. Et finalement, cette nature a pris cette place automatiquement. Et je me suis dit, en plus, symboliquement, finalement, c'est le printemps. On aurait peut-être pu...
Il faisait beau, en plus.
Oui, c'est ça. Mais effectivement, oui, le printemps, c'est la vie qui déborde. Et pendant que nous, on était en plein hiver, en fait, il y avait ces printemps-là qui...
Peut-être qu'à l'intérieur de nous aussi, dans cette dans ce recueillement, il y avait aussi un printemps qui émergeait en nous, parce qu'il était happé par les rythmes rapides de la vie. Ouais. Du coup, on était un peu déconnectés de nous-mêmes, et peut-être que du coup, cette expérience nous a donné l'occasion aussi de se retrouver avec nous-mêmes. Peut-être pas avec les infirmiers qui étaient là.
Moi, j'étais pas sur le terrain.
Mais ouais, pour d'autres, je pense, bon, pour toi, c'était pas le cas, je pense.
Comment ?
C'était pas le cas de se retrouver, de te retrouver dans cette introspection où on se découvrait peut-être différemment. Peut-être d'avoir été submergé au feu de l'action, pour toi, c'était une autre réalité. Mais je pense que du coup, c'était bien aussi parce que ça nous obligeait à être face à nous-mêmes aussi.
C'est peut-être l'immobilisme aussi qui permet l'intériorité, en fait. Parce que peut-être que ceux qui ont du coup bougé, on n'a peut-être pas pu ou pas eu le temps, en fait, de pouvoir intérioriser comme nous, finalement, on n'avait que ça à faire.
Oui.
Je me demande si cette le fait d'apprivoiser finalement cette période par la reconnexion à soi-même et à la vie, qu'elle soit dehors ou dedans. Est-ce que c'est pas quelque chose d'adulte un peu mature? Moi, je pense, j'avais des ados à la maison et j'ai essayé de leur expliquer ça. Mais je crois qu'on n'est pas du tout sur la même planète par rapport à ça. Et est-ce que c'est pas quand même un privilège de voilà, à partir d'un certain âge? Et comment nos jeunes ont vraiment vécu ça? Je sais pas finalement.
Je pense que c'était très dur pour eux.
Alors voilà, ça a été dur. Ils ont encaissé parce qu'il n'y avait pas de danger immédiat. En tout cas, voilà, j'ai deux spécimens à la maison. Je sais pas quelle généralité on peut en faire. Finalement, c'est peut-être ça qui me questionne aussi.
Est-ce qu'ils en reparlent maintenant? Est-ce qu'ils en disent quelque chose?
Oui, alors ils en parlent. Ils en parlent et ils en parlent de façon différente les deux. Mon fils, qui est très malin, me reproche de ne pas l'avoir laissé se perdre dans les jeux vidéo parce que comme ça, il aurait peut-être pu aller au bout de lui-même et enfin trouver ce qu'il fait vraiment dans sa vie. Ah, voilà, ouais. Donc on a eu une discussion un peu compliquée. Et voilà, et ma fille m'expliquait, elle, que... donc lui, il était en demande de cette intériorité, mais qu'il n'a pas su trouver. On peut dire ça comme ça, peut-être. Et ma fille, elle, me disait plutôt qu'elle était complètement paumée, qu'elle se reconnaissait plus, qu'elle avait besoin de ses copains et des stimuli extérieurs. Et ça a été très, très anxiogène pour elle.
Ça montre aussi peut-être qu'ils sont habitués à être tout le temps aussi, soit avec la technologie, soit avec les amis, et jamais se confronter à eux-mêmes, parce qu'on ne vit pas dans une époque où on est aussi qui favorise le recueillement et l'introspection. Du coup, on est complètement à chaque fois projeté à l'extérieur de nous-mêmes, et du coup, se retrouver avec soi-même, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu de l'expérience. Et du coup, on n'a pas les ressources pour se retrouver, pour se réinventer.
Ce serait propre à cette génération-là, encore plus qu'à l'âge adolescent. Vous voulez dire ça, ce que vous dites?
Oui, je dirais, je pense.
Oui, mais c'est vrai, je crois que c'est intéressant.
Parce que si je pense, par exemple, il y avait bien des auteurs qui écrivaient des romans romantiques à l'âge d'adolescence, ils avaient aussi cette capacité de se retrouver avec eux-mêmes, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas sollicités à chaque fois par la technologie, que du coup, ça laisse pas l'occasion de se retrouver avec soi-même.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont... En tout cas, il m'a semblé que mes enfants, je ne sais pas comment sont les autres, mais étaient assez démunis finalement en ressources par rapport à ça.
Ils ont quel âge?
16 et 17.
17 et 17.
16 et 17 et demi.
Oui, oui. 800.
Moi, mon fils est né à va avoir 20 ans. Et lui, j'étais surpris. Donc, il s'est complètement isolé dans sa chambre. Donc, il communiquait avec. Donc, il est très. Il a une grande bande de copains. Enfin, il est très sociable d'habitude. Il sort beaucoup. Un gros fêtard. Et là, plus rien. Mais tous ses copains, pareil. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est que comment ils ont obéi au confinement. En fait, ils allaient se confiner. Et moi, à la fin, je voyais qu'il allait pas bien parce qu'il a vraiment été en difficulté. Enfin, déprimé un peu. Et je disais, mais vous avez des copains, faites-vous des soirées clandestines. Enfin, moi, je me dis qu'à cet âge-là, j'aurais eu envie de désobéir. Et en fait, c'était inenvisageable, quoi. Il me dit, mais les copains ne sont jamais d'accord. Ils étaient vraiment saisis par l'ambiance, par la peur. Et le Covid,
moi, j'aurais été jeune. Moi, je suis vieille à 100, mais j'ai pas eu peur, moi. J'ai l'âge de mourir depuis longtemps. mais jeune, je pense que j'aurais eu peur. J'aurais eu peur, franchement. Et là, moi, ça me faisait rien.
Moi, par contre, un truc qui me fait peur pour les jeunes générations, c'est cet été, il va y avoir des départs en vacances, oui. Gens parlent, mais que ça s'accumule sur les plages que ça.
Ah oui, ça
va. Je me demande qu'est-ce qu'on va avoir à la rentrée. Il ne va pas y avoir de rentrée scolaire.
Ça, c'est la deuxième partie de la conversation, ça. On y reviendra tout à l'heure. Et si on peut rester sur le confinement, il y a peut-être d'autres personnes qui ont envie de témoigner de ce qu'ils ont vécu.
Rappelle la deuxième.
Ou vous-même, peut-être, madame, je ne sais pas.
Moi, je vous dis, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose. À part que pour aller faire les courses, c'était l'horreur. Mais. Ça m'a fait quoi? Pendant 3 semaines, je l'ai boulé. Après, ça m'a fait rire. Du 9 ans, quand je voyais, quand il m'est arrivé des aventures, je croyais que c'était des gens. J'avais pas de mal. Je me faisais enlever les masques. Et les gens, comme vous, là, qui portent leur masque n'importe comment, qui le mettent autour de vous. Le masque, vous portez un masque, mais quand on l'enlève, il faut le mettre dans un petit sac, sinon il ne vaut plus rien.
Pour la compréhension, je dirais, vous pointez du doigt un médecin. Hein, c'est...
Mais bien au courant, je crois.
Non, mais c'est pour l'histoire.
Bon, ça y est, maintenant je suis foutu. Je me suicide ça.
Quand
j'ai
pas. Bon.
Oui, mais.
Tu vas faire travailler.
Je me suicide au chocolat.
Et du 85%, c'est déjà un début.
Ouh, j'adore.
85%, je me suicide. Moi, ce qui m'a. C'est un peu pas plus de le dire, mais ce qui m'a quand même frappé et effrayé, c'est. Et fait souffrir, c'est de voir cette mécanique médiatique à l'œuvre, là. Cette focalisation, cette création d'un. De quelque chose de monstrueux. Alors je dis pas qu'il s'est rien passé, enfin moi j'étais dans la mêlée à voir des malades, donc j'ai vu, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment allés mal, donc j'ai vraiment vu un problème. Après on pourrait débattre des heures sur est-ce que c'est comme la grippe, pas comme la grippe, mais en tout cas j'ai pas vu non plus une épidémie de virus Ebola. Et en fait voilà, j'ai vu cette focalisation médiatique, ce focus là qui hyper anxiogène et qui au début du confinement rendait les gens fous, enfin les gens étaient étranglés par l'anxiété, enfin dans mon travail c'était vraiment impressionnant de voir ça. Puis il y a des gens qui s'en remettront pas, hein, psychologiquement, qui ont vraiment été bousculés, et quelque chose qui me semble disproportionné par rapport à l'enjeu médical. Et moi ça m'a fait flipper. J'ai pensé, alors j'ai fait un rapprochement archi douteux, mais avec ce qui s'est passé au Rwanda, avec la radio des Mille Collines, vous savez, le génocide rwandais, enfin on raconte qu'il y a une radio qui, pendant la radio des Mille Collines, pendant des années avant, diffusait des messages de haine raciste, et que bon, et certains disent que c'est ça qui a construit un peu cette bombe à retardement qui a explosé au moment du génocide, à dire comment un média pouvait arriver à retourner la tête complètement de tout un pays. Et j'arrêtais pas de penser à cette histoire en voyant comment BFM, tout ça, qui focalisait tous les jours les choses sur ce qui se passait, pouvait complètement mettre les gens dans la détresse. Et au départ, je me rappelle une petite dame polonaise qui est venue là, qui était hyper inquiète pour le coronavirus, à un moment où moi j'étais aussi pris dans l'anxiété. Enfin, au départ, en tant que médecin, on nous annonçait un truc terrible, je me suis dit, waouh. On sortait de l'épidémie de grippe, moi j'étais HS, mais je vais jamais arriver à gérer l'horreur qui va arriver. La dame arrive, on ramène son anxiété, elle me dit « Mais vous, docteur, vous êtes bien protégé ici, vous n'avez pas la télé. »
C'est
génial.
C'est
la télé, quoi. Et moi, ça m'a impressionné, cette histoire de médias, ça m'a fait flipper, en fait. Donc, je disais, flippant.
Moi, je suis entièrement d'accord, parce que moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. On parle d'introspection, mais je pense qu'il y a eu vraiment presque autant de personnes que de vécu, parce que en fonction de notre profession, de nos moyens, il y a mille choses qui fait qu'on n'a pas du tout vécu la même chose. Il y a eu un petit scandale avec les écrivains qui ont
qui ont raconté de manière un peu poétique dans les médias à leur confinement, qui se sont fait un peu remballer parce que tout le monde
n'a pas aimé
sa poésie en regardant la mer. Hein.
Oui.
Donc, il y a des gens à qui on a posé la question, qu'est-ce qui vous a manqué pendant le, pendant le confinement, ils ont dit du fric. Hein. Donc ça ne faut pas l'oublier.
Ou à manger.
Et moi je sais que moi je l'ai super bien vécu, hein. Moi de toute façon je pouvais pas travailler et moi je l'ai vraiment super bien vécu, hein. C'était parce que finalement ça mais très vite j'ai vraiment coupé les médias qui me créaient une oppression et qui m'empêchaient de penser. Parce que où quel que soit le média, hein, et là pour le coup vous pouviez aller de BFM jusqu'à France Culture, c'était c'était la même chose, c'était comme si on essayait de me retourner le cerveau et de et j'ai vraiment dû couper. Ça a duré 15 jours où j'avais besoin de m'informer, hein, parce que moi j'étais aussi toute seule. Alors après j'avais du lien, on a développé des liens différents, mais je veux dire au début j'ai vécu 15 jours de panique parce que j'avais besoin d'informations, parce que je voulais savoir ce qui se passait, si c'était grave, si c'était pas grave, comment allaient les gens autour de moi, tout ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu besoin de ne plus avoir ces informations, en me disant tant pis, parce que je ne peux plus penser. Ça me met juste en panique, ça me gâche mon temps, et ça ne m'apporte rien, puisque de toute façon, je ne peux rien faire.
Alors,
c'est vrai.
Non, vas-y. Je ne peux pas presser.
Moi, je retiens bien.
Il y a qui
Non, mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, où j'ai eu exactement la même sensation d'un envahissement radical les 15 premiers jours, 3 semaines, où pareil, j'étais plutôt accrochée à l'information. Et puis je me rendais compte qu'il n'y avait plus aucun espace pour autre chose, en fait. Et ni dans les conversations avec les gens, ça revenait. Et en fait, au final, c'était une telle pollution, un tel parasitage, que le moment où j'ai décidé de couper complètement, en me disant aussi... qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de t'accrocher à la courbe des morts, en fait, quelque part. Ça, c'était assez terrible quand j'ai pris un peu de recul là-dessus. Je fais, en fait, là, tu attends qu'on te dise combien de personnes sont mortes. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'assez. Moi, qui me mettait un peu mal à l'aise. Et le moment où j'ai décroché de ces informations, il y a tout un autre espace qui s'est libéré. Et effectivement. Qu'on le veuille ou non, en fait, on a été en contact. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup d'endroits où on pouvait échapper à cette information Covid. Même dans nos conversations entre amis, on en parlait, dans les médias, on en parlait. Donc, moi, c'était plus ça, c'était de chercher les espaces où il n'y avait plus, où le Covid était absent, en fait. Et c'était très dur, finalement. Voilà, donc c'était pour rebondir un peu sur ce que tu disais.
Christian, tu es spécial ?
Je voulais juste dire que on a un texte dans le livre qui va être publié d'une dame qui a été journaliste pendant 30 ans, notamment pour les actualités sociales hebdomadaires, pour un certain nombre de revues médicales, mais aussi pour le journal quotidien d'Humanité. Donc, qui était quelqu'un d'engagé, mais qui avait beaucoup de compétences et qui était reconnu pour ses compétences en termes d'expertise. Elle avait fait beaucoup d'enquêtes sur le laboratoire et sur la manière dont il faisait beaucoup trop de bénéfices au détriment des patients. Et elle a été confinée, et pendant le confinement, elle a vu comment se comportaient les médias par rapport à ce que tu dis. Elle a décidé, et elle le dit dans son texte, qu'elle changeait de métier. C'est incroyable. Moi, j'ai trouvé ça très fort parce que elle essaye d'être cohérente avec ce qu'elle a essayé de faire dans son métier jusqu'à maintenant. Et elle dit, je peux plus le faire. Tout est pipé. Les forces économiques sont là. Les journaux sont achetés par des grands groupes. Elle explique. En plus, c'est pas idéologique. Hein, elle donne des exemples parce que c'est quelqu'un de très informé. Et voilà. Non, c'était juste pour préciser les
choses. Après, à la décharge des médias, il y a aussi le système d'information qui a été perturbé.
Bien sûr.
Donc, ils ont dû aussi s'adapter, mutualiser des informations. Donc, forcément, l'investigation était plus difficile. Moi, ce n'était pas une critique des médias que je faisais. C'était juste mon ressenti par rapport à cette surinformation.
Si vous voulez prendre la
parole. Monsieur Payet, je voudrais vous demander. Alors, en Afrique, il y a un petit pays. Quoi, quand j'ai vu, c'est l'émission qui m'a fait redémarrer à bloc. Un petit pays, je crois que Laos, mais Laos, ça me semble plutôt en Asie. Alors, un tout petit pays d'Afrique. Et quand j'ai vu le. Oh putain, je me suis dit, arrête de plein, non mais oh, faut pas déconner, t'as de l'eau, t'as à manger. Il y avait des peuples. On leur donnait des médicaments, mais ils ne pouvaient pas prendre les médicaments parce qu'ils n'avaient pas assez de nourriture.
C'est pas d'eau, surtout.
Aussi.
Manque de nourriture et tout ça. Eh ben, ça, après, on sait vraiment qu'on voit qu'on se plaint, non, de non. On n'a rien compris, là.
La disproportion entre oui. Ce qu'on vivait là et ce que ouais. Certains.
Eh oui. Et même dans notre société en Europe, eh ben il y a bien des petits gens qui. Quand on tombe sur des choses comme ça. Et moi, je veux dire que j'ai le chic pour tomber tout le temps sur des trucs qu'il ne faut pas voir.
Oui, c'est de quel âge entre l'Occident là, on a été touché dans nos acquis aussi, hein, dans cette chance qu'on a d'avoir une sécurité sociale. Oui. Et là,
même en France, il y a des gens qui ont souffert, des gens qui étaient
malades. Même en France,
il y a tous les enfants
qui sont malades. Tout ça.
Société, je me suis senti privilégié.
Mais je crois aussi qu'on a été touché dans notre habitude du contrôle. Et que moi, une des premières choses que je me suis dites quand c'est arrivé, j'ai dit ben, on s'est tous précipités sur la technologie pour essayer de poursuivre quelque chose, mais la première idée que je me suis dite, c'est bon, ben là on a perdu quoi. Là on est confronté à quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas contrôler. Et on l'accepte, et peut-être on peut aussi l'accepter. Dans notre mentalité d'occidentale, pour
le MTN.
Le progrès, la technologie, la croissance et tout, tout d'un coup, les choses nous échappent. Et qu'est-ce qu'on a du mal à accepter que les choses nous échappent?
Mais c'est peut-être le mérite de ce virus, hein. Montrer les limites de cet Occident qui pense contrôler la médecine. Et là, on est face à un truc qui nous a un peu échappé, qui nous a. Enfin, il y avait la question de la nature, est-ce que c'est une question. Biologique qui est de non-respect de l'environnement qui a déclenché le truc. Moi, je trouve que ça nous a aussi ramené à notre place de ben, on est des animaux, pardon. Mais on est dans ce bain-là et ça, on a peut-être oublié tout ça parce que dans cette course technologique qui nous coupe de notre humanité aussi, et ce temps d'arrêt peut-être nous a ramené pour certains à ça. Il nous a aussi coupé, enfin, moi je pensais notamment à une histoire, c'est la tante d'une voisine qui est morte. Ça s'appelle syndrome de glissement en termes médical. Et je pense que ça n'a pas du tout été médiatisé, mais au final ça serait intéressant de voir toutes ces personnes qui sont mortes de leur isolement, de leur coupure sociale, de liens sociaux. Et donc cette dame qui avait 80 ans, qui était dans un établissement de personnes âgées, du fait des réglementations de distanciation sociale, alors que ça aurait sans doute dû être que des distanciations physiques. La coupure du lien social qui font que nous sommes nous des animaux sociaux, ben là il y a quelque chose qui manquait et qui a amené à la mort cette dame quoi, qui n'a pas supporté, qui a arrêté de manger, qui a arrêté de vivre parce qu'elle ne pouvait plus voir ses enfants et ses petits-enfants. Et voilà.
Il y a un psychiatre qui a écrit là, dans un article une phrase qui m'a marqué, qui a dit le lien, à ce sujet-là, hein, le lien est notre premier oxygène.
Oui.
Et je trouve que ce confinement pour les gens qui étaient déjà isolés par plein de choses, il a été.
Et puis temps. Moi, je vais répondre encore. Le lien, notre premier oxygène, et le lien, notre premier. Nous aussi.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire des moments où on vit des choses qui ne sont pas évidentes. Bon, je vous dis, là, je vous parle calmement. Mais des fois, j'ai la voix qui monte, quoi, que je suis ou qui descend complètement. Eh ben, quand je parle comme ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont envie de courir. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop mal avec à garder mes distances avec lui. J'étale comme des lapins. Mais il y a des gens, quoi. En général, je vois les personnes plus jeunes quand je suis sur un trottoir que je veux pas croiser la personne. Alors, j'ai dit, vous avez vu, j'ai des problèmes pour me déplacer. Alors, quand le trottoir est haut, eh ben, j'hésite à descendre. Quand le trottoir est bas, je descends vite. Et j'ai appris à dire merci enfin aux gens qui descendent sur le trottoir, qui me laissent la place. Mais c'est pas évident. Et des moments, les gens ne comprennent pas. Je vois, par exemple, avec des petits jeunes dans mon immeuble, alors, depuis, je ne sors plus mon chat à 7h du matin, je le sors à 5-6h. Comme ça, je suis tranquille, je ne rencontre personne. Un matin, à 7h, là, je sors sur le chat. Une petite voisine des étudiants sort, et elle se rapproche. Alors, avec ma canne, je sors ma canne droite pour lui montrer qu'elle fasse l'espace vu que je ne pouvais pas beaucoup parler, quoique je parlais très mal. Et alors, elle n'a pas bien rangé. Quand elle a pris ça pour de l'agression, et moi, j'ai essayé de lui dire que c'était pas... Elle a appelé son mec et tout ça. Oh purée, du coup, j'allais me faire casser la figure.
Parce que ce que vous dites, ça me fait penser à un texte qui est... qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, que je vais demander à Elie de lire, parce que j'ai trouvé qu'elle disait très bien tout à l'heure. Donc, puis je viens de lui demander en mieux, ça me fait d'accord, donc je ne la force pas. Puis ça nous fera une petite respiration pour aborder la question de l'après. Voilà. Alors ça commence là, tu vois, ça s'appelle « Aimer mai ». Mai, le mois de mai.
C'est un texte.
Jusque là.
Je peux raconter une anecdote.
Ah, tu racontes ce que tu veux.
Non, je vais lire le texte d'abord. Donc, jusqu'où, jusque...
Jusque là.
Pareil. Ouais. Donc, aimer mai.
Le mois de mai.
Le mois de mai. Donc, aimer mai. Toi, là, au fond de ton trou, dans le trou de ta vie, que vas-tu faire? Faire comme tout le monde, certainement. On pourrait dire, enfin... On va dire pourquoi. Faire comme tout le monde, au bord du gouffre, sauver sa peau, toujours. Faire comme tout le monde, contraint par la force et la loi à rester chez soi. Contraint par la force et la loi à travailler pour tenir le fantôme d'un pays droit. Hier comme aujourd'hui, ouvrière et ouvrier anonyme, fantassin, infirmière, volontaire, encore et toujours les exploités, chers à virus, sacrifiés à l'ombre des pyramides. Sauver des vies. Sauver des vies, oui absolument, sauver l'économie et ses paradis. Ceux qui ne sont rien, en prison ou à ciel ouvert, vieux, peuvent toujours prier, crever. Que dire si tu t'enfuis dans ton trou doré qui sent bon la terre froide, quand d'autres paniquent dans 20 mètres carrés de moquette asthmatique. Tu ne peux faire autrement, faire comme tout le monde. Voilà, c'est la merde. Tu es acculé, confiné, avec tes proches ou solitaire. Ensemble, on supporte le drame. Et suspendu dans la chute, tu comprends que demain ne sera plus jamais pareil.
Bah, c'est un petit florilège, il y en a comme ça, beaucoup. Hein.
C'est de la poétique.
Alors, c'est très intéressant comme remarque. C'est-à-dire, on a eu quelques... Je voulais un peu en parler, mais je ne savais pas quand. Alors, merci. En fait, on a arbitrairement décidé qu'il y avait des textes qui étaient politiques et d'autres qui étaient poétiques. Et puis finalement, ça, c'était avant qu'on reçoive les textes. Et quand on a reçu les textes, on a eu des échanges de mails où on disait, alors, qu'est-ce qu'on pense? C'est poétique, c'est politique, c'est... Et en fait, les gens s'en foutent, que ce soit politique ou poétique. Ils font un texte, ils ne se posent pas la question de où on va le mettre.
Ça s'hybride.
Et donc après, ben, quand on était tous les trois d'accord pour mettre un endroit, on l'a mis, quoi. Mais c'est de l'intersubjectivité bien raisonnée, hein, c'est tout. Oui, donc demain ne sera plus jamais pareil, c'est ce que dit cette personne.
Je vais faire un petit coup. Ouais.
Vas-y.
Ça fera la transition, moi, avec ma perception, parce que Personnellement, le confinement n'était pas très intéressant. J'ai maintenu le travail, Par contre, j'ai pu pas mal de mon petit référentiel voir ce changement un peu très rapide des significations et des perceptions de certains métiers qui étaient structurellement, je considère comme structurellement sous-valorisés, dévalorisés, etc. Notamment les métiers qui permettaient de satisfaire les besoins enfin nécessaires, hein, que ce soit l'alimentation, etc. Hein. Pas forcément entrer là dans le monde de la santé qui pourrait être aussi considéré comme encore un gros bloc, même par lui-même. L'alimentation, que ce soit les livreurs qu'on pouvait voir, même les livreurs d'Amazon, ou je sais pas, ce que je voyais même autour de chez moi, c'est qu'il y avait une considération. En tout cas, quand je voyais même mes voisins, une forme de considération importante. Et comme si, très rapidement, très conjoncturellement, en très peu de temps, il y a eu une mise en lumière. À savoir si, à partir de cette mise en lumière, que je pourrais dire peut-être assez conjoncturelle, en tout cas, il y avait quand même beaucoup de points qui le permettaient de savoir qu'est-ce que. Après, en fait, aussi, cette mise en lumière, comment. est-ce que ça reste une mise en lumière qui redescendra d'un truc comme ça, ou est-ce qu'on peut l'utiliser pour tirer un fil voilà, donc ça, ça m'a bien questionné. Et ça ouvre aussi les grandes questions. Je sais qu'avec beaucoup d'amis, on a qui se posaient la question sur les applaudissements à 20h, est-ce que c'est de l'héroïsation, etc. Il y en a qui disaient que. Bref, là, il y a tout un pan aussi autour de ça, mais. Ouais. Moi, j'étais choqué quand je suis allé faire mes courses plusieurs fois, la façon dont les gens remerciaient les personnes, et la façon dont les personnes se sentaient aussi alimentées un peu par ça, tout en râlant ici beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de personnes.
T'étais choqué, tu dis ?
Non, pas choqué, surpris. Non, surpris, ouais.
Pas choqué.
J'avais
traduit.
Ouais, bien sûr. Évidemment. Oui, interpellé, on va dire.
C'était plutôt une bonne nouvelle pour toi.
Oui.
Plutôt.
J'ai eu envie, moi, de dire, je l'ai dit d'ailleurs quand on a fait les premières courses et qu'on a réalisé à quel point on était dépendant au niveau alimentaire, moi j'ai dit aux gens les premiers jours, merci plus que d'habitude, parce qu'il y avait cette prise de conscience que c'est notre dépendance absolue, quoi. Enfin, si les transports s'étaient arrêtés, on ne pouvait plus manger plus de 2-3 jours. On avait quand même conscience comme ça du lien, de ce qu'on doit en fait les uns aux autres en fait.
Les petits mots sur les poubelles dans mon quartier, des petits cadeaux pour les enfants. T'as vu ça aussi
en haut en fait là.
C'est à l'autre bout, mais je pense qu'il y a eu des petites choses spontanées comme ça, très belles. Très belles.
Moi je suis enseignant depuis 35 ans, j'ai jamais reçu autant de positifs en 35 ans. Et ça s'est poursuivi jusqu'à ces derniers.
De la part de qui ?
Des parents, principalement des parents, mais aussi des enfants. Ouais. Et la relation épistolaire qu'on a établie avec les adolescents, moi je travaille en collège et lycée, a modifié les rapports, c'est-à-dire qu'on est rentré dans des liens beaucoup plus proches, personnels, attentionnés, et ça s'est poursuivi. Et ensuite, à partir du 11 mai, on s'est retrouvé avec des petits groupes dans des classes qui se retrouvaient maximum 15. Donc on a connu notre métier comme jamais. Malgré les contraintes, on a connu des plaisirs qu'on n'a jamais eu dans la relation. Parce que d'habitude, c'est 30. Et ensuite, quand tout le monde est revenu, il y a eu ceux qui étaient revenus le 11 mai et les autres. Et ceux qui étaient revenus le 11 mai avaient à cœur de bien montrer qu'ils étaient tribu à part, quoi. Ils avaient établi un nouveau lien avec les enseignants et ils tenaient à le montrer. Donc c'est que quand on dit les choses, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si c'est durable, mais la reconnaissance pour les enseignants était quelque chose d'inattendu et qui nous a, enfin dans le métier, fait beaucoup beaucoup de bien avant que certains commencent à nouveau à nous bombarder.
Mais
ça
c'est. Voilà. Mais c'est bien.
Mais le positif domine vraiment.
Oui, les invisibles sont. Apparu en pleine lumière, en fait.
Ouais, c'est bien, parce que finalement, on reconnaît le métier d'enseignant, alors que...
Il y a eu des vidéos hilarantes. Il y a eu la vidéo d'une maman qui appelle les enseignants depuis son placard où elle s'est cachée. Pitié, plus jamais je vous écouterai avec des mots. S'il vous plaît, revenez. Enfin, c'était...
C'est bien,
sur
c'est
le mot bien. Mais c'était rafraîchissant.
C'était une maman de ta classe.
Forcément.
Vous êtes trompé de quoi ?
Musique.
de musique.
J'étais prof d'art plastique.
Sur le fait que moi j'étais très troublée, que très très vite, dans les médias, les gens s'en parlent de la question du monde d'après. C'était sûr, tout allait changer. Ça faisait même pas une semaine qu'on était. On arrivait à peine à faire face au présent, que déjà il fallait parler du monde d'après. Et moi, ce souci-là, je l'ai rapproché de cette volonté de maîtrise et de contrôle. C'est-à-dire que pour surmonter l'épreuve, il faut déjà construire ce qu'on va faire après, parce que comme ça, ça va aller mieux, mais c'est reprendre la main. Et ça me paraissait en fait complètement illusoire, et j'avais du mal à savoir pourquoi, mais finalement, en vous entendant, je me dis, mais c'est ça, c'est que les changements, ils vont se faire de façon ténue, subtile, ça va être des petites choses qui vont peut-être laisser leur empreinte, même si politiquement, il peut y avoir des mesures, effectivement, mais c'est pas ça le changement pour moi, enfin... Peut-être d'une certaine partie, mais en tout cas, il me parle peu, celui-là. Et je ne sais pas, je suis pas sûre que le fait qu'il soit lié, en tout cas que les changements envisagés soient liés à un événement avec un impact majeur comme la Covid, fasse que ça va changer plus vite ou différemment de ce qu'on disait avant. Je suis un peu réservée. Bon, voilà, ça c'est peut-être une impression personnelle. Mais par contre, effectivement, il y a des choses très très subtiles.
Mais tu parles de lenteur, d'emprunt, de subtilité.
Oui.
Tu as des exemples de choses comme ça qui sont subtiles, dont tu peux envisager, même si on ne le sait pas collectivement, que ça peut être intéressant que ça dure dans le futur. C'est difficile comme
c'est
question.
C'est difficile parce que je ne l'avais pas mesuré. Et c'est en entendant parler que du coup je me dis finalement, voilà, ce que je ressentais, c'est ça. C'est qu'effectivement, ça va changer des choses. Mais... sur le moment, on ne peut pas savoir. Et je trouve que ça, c'était aussi ambitieux, du coup, à la fois le projet d'ouvrage sur la politique, la République, ou la politique, je ne sais plus, et celui sur la poétique. Parce que qu'est-ce qu'on peut saisir du moment, entre ce qu'on saisit sur le moment et ce qui va se passer après, il y a probablement un gouffre. Et puis finalement, je me suis aperçue que c'était possible d'écrire sur le moment, donc j'ai trouvé ça chouette. Et mes réserves se sont un peu envolées, mais c'est vrai qu'il y a tout un truc qu'on ne connaît pas encore, en fait, une espèce de zone inconnue sur la façon dont on gère ça à chaud, si je le dis plus trivialement, et ce qui va se passer après. Donc sur les petites choses ténues, non, alors il y a les ados, qu'est-ce que ça va faire sur eux, par exemple. C'est sûr, il y a une marque, mais qu'est-ce que ça va donner, j'en sais rien. Peut-être que les gens qui effectivement ont complètement décompensé, ça va entraîner certaines choses. Là, je suis plus sur un niveau individuel, mais voilà, peut-être que des gens se sont trouvés et que ça va amener vers de belles choses. Moi, j'ai participé à un réseau qui s'appelait Lire et Relier, qui était des lecteurs bénévoles par téléphone auprès de personnes âgées sur des maisons de retraite. Voilà, en ce qui me concerne, moi, ça a changé mon regard sur la vieillesse, par exemple. Parce que en contact avec des vieilles dames, ça a changé mon regard sur la poésie, dont j'ai trouvé qu'effectivement, c'était... on met quelques mots et pouf, on est libre. Voilà,
comment ça une
phrase, on voyage, quoi.
Comment ça a changé, du coup, votre rapport à la vieillesse?
Ah, et ben ça me fait moins peur. Voilà, j'ai parlé à deux vieilles dames fabuleuses. Alors, j'avais ma propre représentation avec mes proches, etc. Mais là, du coup, c'était autre chose. Et,
C'est le rapport à la vieillesse et en même temps le rapport à la mort, ou c'est que le rapport à la vieillesse? Parce que la mort, les médias nous l'ont vendu quand même.
Oui. Non, là je parlais du rapport à la vieille. Enfin, pour moi, dans cette expérience-là, par exemple, en parlant de petites choses très fragiles, très ténues, qui peut-être ne passeront que par des expériences personnelles, et puis peut-être que leur agrégation font qu'il va se passer quelque chose de collectif. Je ne sais pas, en fait. Mais voilà, non, pour moi, là, ça a vraiment été un changement de regard sur la vieillesse. Voilà, et tout ce qu'il y a de vivant dans la vieillesse, finalement, aussi.
Du coup, ça, vous avez un peu dédramatisé la vieillesse.
Oui, je suis sortie. Voilà, pour moi, ce n'était plus qu'une catégorie. Alors, mes grands-parents sont décédés et mes parents ne sont pas encore forcément vieux au sens. Voilà, ou alors je ne sais pas, je ne les catégorise pas, mais voilà, j'avais une catégorie personnes âgées et là j'ai fait la lecture à des personnes âgées et là non, finalement, c'était des personnes. Et le regard s'est un petit peu décalé et je trouve que c'est
Pour moi, ça a été une découverte assez extraordinaire parce que, en raison de maladie, je fais beaucoup d'international et j'avais été fermé, mais par la maladie. Et le Covid, au contraire, ça m'a permis de me réouvrir sur l'international parce que tout le monde s'est mis à travailler. J'ai pu reprendre mes cours au Vietnam, au Liban aussi, parce que tout le monde avait besoin de contact. Et l'image, c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est pas pas pareil que le téléphone. Et je participe aussi à des négociations au niveau des normes, au niveau international. J'ai pu redécouvrir des tas de complicité, chose qui était peut-être interdite pour moi dans le futur. Moi, ça m'a ouvert des horizons. Et alors, j'aurais une question pour vous. On a peu parlé des magistrats, justement, alors que tout a été fermé. Alors, du coup, je vous interpelle, parce que bon, moi, j'ai découvert des tas de choses positives grâce à ça. Mais on a peu parlé des magistrats, les tribunaux qui étaient fermés, tout ça. Et ça m'intéresserait d'avoir votre témoignage, si vous voulez bien sûr. On n'est pas, pas la police ici.
Non, alors, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas vous dire plus que ce qui a été dit dans la presse.
Parce que, il y a peu qui a été dit, on a peu parlé. Ouais. Autant, je trouve qu'on a été assez silencieux sur le...
Bah, les urgences, en gros, les urgences ont été assurées et tout le reste a été...
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des petites choses qui sont passées? Vous n'aviez plus le droit d'aller en prison. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous faites comme métier.
Non, mais je suis un peu en marge, si vous voulez, de la justice qui, auprès du terrain, auprès des justiciables. Je suis en poste un peu particulier, ce qui fait que je n'ai pas du tout cette notion-là.
Ah, d'accord. Bah, excusez-moi.
Vous non, mais, non, mais il n'y a pas de
c'est pas, je ne travaille pas pour la police. Et, non, parce que c'était intéressant, parce qu'il y a eu peu de dit. J'ai juste vu des petites lumières. Il y a quand même des avocats qui ont pu aller voir des gens en prison, mais qui étaient limités. Mais il y a des tas de gens qui ont réussi à ruser. Et on disait, par exemple, là, une petite chose que, curieusement, les prisons, c'était un peu vidé.
Mais ça, c'est vrai, il y a eu des consignes
donc,
de libération.
C'est une telle chose qu'on n'a pas parlé. C'est vrai, ça
oui,
les prisons se sont vidées. Parce qu'on a libéré des tas de gens et tout. Puis, il n'y a pas eu plus de meurtres et de crimes pendant cette période. Enfin, il y a eu des tas de choses qui sont un peu intéressantes et que bon, j'aimerais qu'on en parle. Alors, c'est peut-être une occasion de dire de partout dans tous les domaines où il y a des choses qui sont plutôt ouvertes plutôt que fermé. Mais les, vous, je vous dis, les magistrats, ça a été beaucoup plus discret que d'autres. Alors je pense que vous faisiez partie des gens qu'on aurait pu applaudir aussi.
Aussi, bah, c'est ce que disaient certains, effectivement. On voyait passer certains tracts syndicaux sur notre boîte mail, etc., qui disaient... et d'ailleurs, les magistrats n'étaient pas prioritaires pour mettre leurs enfants à la crèche. Voilà. Ou à l'école, pardon.
Ouais, voilà. C'est des
exemples comme ça. Et ça a été une vraie difficulté pour certains qui devaient rester à la maison.
Et vous avez des exemples, vous pourriez nous en reparler une autre fois ou autre. Ouais, ça m'intéresserait de savoir ce qui s'est passé dans ce milieu-là et qui est très... Qui est, bon, j'ai vu des petits signes, des signaux faibles, pour employer un mot à la mode, de ce qui se passait dans le milieu judiciaire, je ne vais plus loin, mais ça a été très intéressant. Des gens qui auraient aussi dû être mis en prison, qui n'ont pas été mis en prison, on m'a dit, parce que, bon, ce n'est pas des choses très très graves, mais d'habitude, pouf, on les aurait mis au trou. C'est vrai ça ou quoi?
Ah, c'est possible, oui, il y a
quand on a dit, bon, tout qu'on fait avec Constant du Covid, c'est peut-être leur donner une double peine et tout, donc on les laisse encore dans la nature.
C'est vrai que c'est aussi du. Je pense qu'il y avait, alors il y avait une part de circulaire hein, du garde des Sceaux qui allait dans ce sens-là, me semble-t-il.
Ah oui, mais on n'est pas
au courant. Oui, ça a été clairement affiché.
Moi, je le découvre, excusez-moi, il y a peut-être plein de gens qui étaient...
Oui, enfin, je peux donner quelques informations parce que je fais partie du Comité national consultatif des droits de l'homme et on a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, il y a 10 000 personnes qui sont sorties de prison pendant le confinement.
C'est fantastique, ça.
10 000 personnes qui sont sorties parce qu'elles étaient en fin de peine et que c'était des peines qui ont été aménagées et on les a fait sortir. Et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est quand même pas rien.
Ah bah oui,
c'est chiant. Je sais pas. Faudrait voir au niveau des gens qui sont spécialistes de la sécurité. On n'a pas suffisamment de recul. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais oui, pour l'instant personne ne s'empare du fait que ça a fait monter les chiffres de la délinquance.
Donc, au contraire, il y a eu...
Alors après, ça arrange tout le monde, parce que la France avait été pointée quand même au niveau de la Commission européenne sur le fait qu'on était en surcharge, si vous voulez, de 20 à 30% si vous voulez, dans les prisons françaises. Donc on se retrouve avec un étiage où on a à peu près plus de 10% de prisonniers par rapport aux places. Mais donc c'est un peu plus humain de les avoir fait sortir d'une certaine manière.
C'est bien, mais il y a des gens quand même qui ont pris des décisions. Alors je ne savais pas que ça venait au niveau politique, donc j'en reviens dans le thème d'ici, mais c'est une chose qu'il faudrait bon, en parler un peu plus. Moi. Et d'après moi, j'ai été tout petit, bon, je lis la presse un peu comme tout le monde, mais je n'ai pas été chercher spécialement ces informations. Mais ça n'a jamais fait la une des journaux, ça n'a jamais été... On parlait du rôle de la presse et
c'est
autres.
Pas, c'est pas, je dirais...
C'est pas glorieux.
Non, je sais pas, mais c'est pas un discours que les politiques ont repris, quoi.
Ah ben
parce que comme on est effectivement... Enfin, je donne mon avis personnel, je sais pas si on partage tous, mais comme on est quand même dans un discours sécuritaire, ça peut aviver un certain nombre de
pensées rationnelles. C'est comme du laxisme,
oui. Tu as été un peu coupé...
Non, 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 parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout intervenue sur ces questions-là. Donc, voilà, l'information me parvient de façon assez claire parce que je décode vite. Voilà, oui. Mais je n'ai pas plus de connaissances là-dessus que d'autres.
Ah bon. Mais c'est intéressant, 10 000, moi.
Oui. Si je savais qu'il y avait. 70 000 détenus à peu près.
Si ah, ouais. Ouais. Combien vous dites
70 000.
Alors, on est plutôt à 90 000 qu'à 70 000.
Oui, ouais, ouais, ouais. Ça fait quelques années que
ouais.
Je suis plus.
Ouais, c'était il y a 10 ans.
Oui, j'ai vu des petits entrevues de presse comme ça, qu'il y avait eu des jugements, mais que des gens auraient dû aller en prison. On leur a dit, écoutez, bon.
Ok,
allez chez vous.
Faudra faire une soirée spéciale magistrat, d'après ce que vous demandez. Sur l'après, il y a peut-être d'autres
pistes. Moi, j'avais une question, du coup, avant. Vous disiez que, du coup, ça a changé les relations avec les élèves.
Oui, oui.
C'est plus chaleureux, c'est plus.
Oui, on l'a tous
pointé. Comme ça.
On a fait un bilan hier, on a tous pointé ça.
Est-ce que, du coup, pour reprendre la deuxième question de cette deuxième partie, est-ce que vous pensez que, du coup, ça va rester ça ou c'était juste éphémère?
Ça, c'est. C'est-à-dire, ce qui s'est passé aussi, c'est que. Bon. On a dû expérimenter des outils à toute vitesse, donc avec des tas de tâtonnements, des tas de bêtises aussi. On a donné des informations, enfin, ne connaissant pas certains outils, par exemple Zoom, par exemple la fameuse plateforme Zoom, a été interdite très rapidement par les autorités académique parce que c'est une pompe à information personnelle, Skype c'est la même chose, en même temps que les outils de l'éducation nationale n'étaient pas du tout aptes à faire le...
Et tout le monde a triché, tout le monde a
fonctionné, donc
on a tous fait
comme on a pu, mais ce qui est certain c'est que, pour ce qui me concerne, moi j'étais pas tellement dans le numérique parce que j'étais plus dans une pratique de la matière, du collectif et de la personne, j'étais même assez rétif au numérique et il a bien fallu que je m'y mette. Et ça a un peu évolué mon point de vue parce que ça m'a permis de davantage rentrer dans le langage de ces jeunes qui ont 45 ans moins que moi ou 40 ans moins que moi, qui sont nés dedans. Et quand j'ai mis en place certaines choses, je me suis rendu compte que j'avais plus de retours. Des retours très vivants. Au-delà du relationnel, il y a aussi le fait que ça a fait exploser la créativité de certains enfants. Et que, dans les travaux que je fais, j'ai reçu des exercices enregistrés qui n'auraient jamais été produits en présence du groupe, mais qu'on a pu du coup faire écouter au groupe, parce qu'une fois que je les ai eu validés et que j'ai demandé l'autorisation à l'élève de les publier en disant c'est très bien, on a pu le réutiliser dans les cours au retour et les faire analyser par les autres qui les ont trouvés très bien. Et je sais que ces élèves-là n'auraient jamais rien produit en présence du groupe. Parce qu'ils auraient été. Donc, ma position sur le numérique a énormément évolué parce que j'ai vu un outil. Alors qu'il va falloir. Ils m'ont demandé clairement de poursuivre une partie du travail en numérique. Voilà. Mais donc, ça je le ferai parce que ça me permet d'entrer dans leur langage, ce qui est quand même un enjeu. Voilà, moi je suis pas en début de carrière.
Tu penses que l'institution a aussi franchi un cap là-dessus ou...
Non, c'est nous.
Ah bah oui.
L'institution, elle a. Enfin,
la société civile.
Bon, je vais avec toute la réserve que m'impose. Puisqu'on est enregistré. L'institution, elle a suivi le même process que le président, c'est-à-dire une forme de communication où. Le verbe crée la réalité, est censé créer la réalité, je le dis donc c'est, il n'y a pas de masse donc je dis que ça ne sert à rien, c'est l'analyse que j'en fais. Et là on a eu effectivement beaucoup de mots qui ont été produits, de discours qui ont été produits, tout ça. Mais ce sont les gens qui se sont adaptés à vitesse grand V, par nécessité, par désir de poursuivre une mission. C'est une mission, ce travail.
Puis des fois par bon sens.
Oui, aussi.
Alors du coup, une marge de manœuvre et une liberté d'action plus importante par rapport à d'habitude ou pas?
Moi, je pense que ça dépend beaucoup des matières. Nous, pour tout ce qui est de l'art musical, on nous a dit, on nous a vraiment encouragé à prendre en compte le fait que des élèves devaient pouvoir travailler même s'ils n'avaient qu'un smartphone, essayer de bâtir des schémas d'enseignement qui puissent aller du smartphone jusqu'à l'élève super équipé. Donc il fallait construire avec ça. Donc c'était, moi ça m'a reboosté un peu quand même, enfin ça m'a remotivé dans la découverte
et beaucoup agacé par moments, parce que bah, quand on est en auto-formation, on dit, oh, on est complètement démunis.
Et moi, je pense aux élèves qui n'ont pas de smartphone, qui ne peuvent pas se servir de tout.
Il y a eu ça aussi.
Moi, au niveau, je vois dans mon cas, au niveau technologique, un smartphone, oh, quelle horreur, quoi. Un ordinateur, j'arrive un petit peu à m'en servir, mais pas parce que là, je peux pas le faire, faut être coordonné. Quand on n'a pas le corps, on ne peut pas appuyer sur deux touches en même temps. Eh ben, il faut que quelque chose sorte, mais on verra.
En même temps, les travaux les plus créatifs qu'on a eus dans les arts plastiques sont venus d'un enfant qui est Asperger et qui est perpétuellement accompagné d'une AVS.
Oui, donc,
on a eu des explosions de talent et de créativité dans les arts qui étaient éblouissants. Et puis, on a des élèves qu'on a complètement perdus. Ça, c'est sûr.
Oui.
Et on ne sait pas comment on va faire, qui ne sont même pas revenus quand c'est obligatoire. Voilà.
Et alors, dans le milieu de la santé, alors ?
Moi, je n'ai pas travaillé du tout depuis. Enfin,
c'est à cause du confinement ou c'est une question personnelle ?
Je m'étais arrêté avant et je ne pensais pas que tout le monde allait s'arrêter en même temps que moi. Et là, ça m'a fait tout drôle de me dire, tiens, je suis un modèle, tout le monde veut faire comme moi. Mais, mais après, j'ai quand même pu suivre les discours de héros. Il y avait quelque chose de maltraitant, je pense, là-dedans, quand même. Parce que... On fait son boulot et puis se sentir héros, ça veut dire quoi derrière ? Enfin, on est des humains et au quotidien... moi, je n'étais pas, mais j'ai pu imaginer la fatigue, etc. Moi, les réflexions qui me sont venues... je fais un peu de musique et je fais de la musique notamment pour la fanfare à manif engagée. Qui, comme son nom l'indique, joue pour les manifs, ça faisait un moment, là, il y avait toutes les manifs pour la retraite, où on sentait qu'il y avait un rapport de force, où il y avait quelque chose d'une usure, de on y va, mais à quoi bon. Et j'étais à la manif, là, du 16 juin, et là, il y avait une belle énergie, enfin, comme si les rapports de force avaient évolué en la faveur de ces héros, et où ces mots qui avaient été posés, même s'ils transformaient le réel, à un moment donné, il fallait faire avec. Et qu'on pouvait croire que ça allait changer. Et en même temps, il y a eu une deuxième manif la semaine dernière, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'on a joué. Et là, on était déjà beaucoup moins nombreux, et avec cette interrogation de comment ça va continuer. Voilà. Et il y avait une histoire que là j'ai entendue en lien avec ce soutien aux soignants, où on allait tous à nos fenêtres à 20h. Et le soir du 16 juin, la manif de soutien aux soignants, il y a une dame qui a sorti sa casserole et qui s'est mise à son balcon pour faire comme pendant le confinement. Et en fait, elle s'est fait insulter par ses voisins, alors qu'avant. Et donc, c'est tous ces mouvements-là, là, comment ça va pouvoir bouger. Je pense qu'il y a quelque chose dans les... Moi, depuis que je fais ce métier, j'ai commencé mes études, on commençait à nous faire coter nos actes, à nous faire... Et on commençait à vouloir induire toutes les notions comptables dans tout ce qui était le soin et tout ce qui était... Et ça a commencé par la chirurgie parce que c'est plus facile, et puis tout doucement, moi j'ai plus bossé dans le relationnel, et même là on voyait les choses arriver, mais avec à chaque fois les mêmes commandes, diminution des moyens, etc. Et ça fait 30 ans qu'on dit, mais enfin, pour soigner, le lien et les moyens sont, enfin, ça s'invente pas, quoi. C'est, à un moment donné, il faut des sous aussi pour pouvoir payer des gens qui vont travailler,
et du temps.
Et du temps, ouais, et donner du temps à ce lien et à ce relationnel. Là, enfin, ouais, je sais pas, est-ce que ça va permettre suffisamment de positionnement pour que qu'en face les politiques entendent les choses, je sais pas du tout. Ça me faisait penser aussi à une autre histoire de ces éboueurs new-yorkais qui avaient fait grève. Et où, en fait, là aussi, quand on parle des gens du réel qui sont là et qui, si ça s'arrête, tout s'arrête. Et ces éboueurs new-yorkais, au bout de 6 jours, ben, New York devenait insalubre. Et rapidement, ils ont eu gain de cause, quoi. Et un des problèmes des soignants, c'est qu'on on peut pas s'arrêter. Il y a quelque chose d'impossible à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que dans nos têtes et dans là où les soignants étaient en grève depuis un an et où quand on allait dire il nous faut des moyens, on devient dangereux quand on arrive aux urgences, qu'on a nos urgences encombrées, etc. C'était des choses qui s'entendaient de loin. Aujourd'hui, je pense que ces paroles-là, elles vont avoir un vrai poids. Et même si les médias finiront par oublier de les nommer vraiment, c'est des choses qui resteront peut-être quand même dans ces petites traces-là qui font qu'on ne pourra plus dire les mêmes choses de la même façon. Mmh. J'imagine ça, après...
Moi, je me suis posé la question par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que finalement, les gens, à petite échelle, s'organisaient très très bien. Les soignants et tous les gens qui ont été solidaires, dans quels que soient les métiers, ils n'ont pas eu besoin de gouvernants qui fait des lois pour leur expliquer comment il fallait réagir. Et moi, il y a un principe que j'aime beaucoup, c'est le principe de subsidiarité. Et je me demande je me suis posé la question, si effectivement le problème des soignants, de l'hôpital et tout ça, c'est pas seulement le fait d'injecter de l'argent. Oui, il en faut, mais ça c'est presque le plus facile entre guillemets, c'est juste une volonté politique. Mais est-ce qu'il faut pas aussi laisser les gens travailler comme bon leur semble, dans leur cadre.
Et c'était une description d'un chef de service qui racontait ça, je crois, qui disait que avant il fallait demander à l'administration je veux tant d'infirmiers, et puis en fait c'est l'administration qui disait ben non, pour faire ça oui, il vous faut ça et puis vous débrouillez. Et c'est quelqu'un qui bossait dans un service qui accueillait des personnes Covid, et là c'est l'administration qui arrivait qui disait ok, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous avez besoin. Et il y avait un inversement des paradigmes, quoi. Pour soigner, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est plus là au niveau comptable, on va gérer le truc et puis vous aurez que ça pour et débrouillez-vous avec.
C'est l'administration redevenait au service du métier et non.
Mais comment ça va évoluer? Est-ce que ça sera comme la dame qui tape toute seule sur sa casserole et qui sera insultée par ses voisins, ou est-ce qu'au contraire il y aura quand même des choses qui seront un peu intégrées? Je sais pas.
Mais pour le monde, juste une petite parenthèse, pour le monde d'après, là, vous avez beaucoup parlé finalement du service public. Enseignement, enfin c'est moi qui t'ai lancé sur la santé, mais il n'y a pas d'autres domaines dans la société où il y a des choses qui vont marquer, qui vont laisser des empreintes, même si on ne sait pas encore lesquelles.
Ouais. Moi j'ai discuté récemment avec un ami qui est prof d'économie assez expérimenté. Lui il prédit un effondrement par exemple de l'aérien inéluctable.
Un effondrement
de l'aérien,
des
avions. J'ai pas les compétences pour savoir s'il a raison, mais lui, c'est sa vision. Lui pense que ça va vraiment s'écraser. Sans mauvais jeu.
C'est le cas. Il faut rajouter l'aérien sur le personnel. Mais le fret a fait un boom extraordinaire. Donc, fret a jamais autant fonctionné pendant tout le Covid et autres. Donc moi je serais très très prudent là-dessus, parce que les gens après reprendront assez vite. Hein. Mais le fret aérien au contraire va exploser.
D'abord, pour rebondir sur ce que tu disais pour les applaudissements, on a reçu un texte qui expliquait, une infirmière qui expliquait à quel point on ne pouvait plus, parce que pour elle c'était complètement déshumanisant, parce que le fait d'applaudir, ça enfermait le soignant dans un rôle où il ne pouvait plus exprimer ses propres faiblesses, en fait, et tout le craquage, et notamment voilà, tout ce qui peut se passer dans ce domaine de la santé. Bon, c'était juste une parenthèse.
Ouais, mais c'est ça.
Moi, j'étais assez d'accord avec ça, en fait. Donc, voilà, moi, les discours qui me sont le plus venus aux oreilles par rapport au monde d'après, c'est vraiment des discours de changement écologique, niveau écologique. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de fantasmes à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a tous remarqué que l'air était peut-être un peu plus sain pendant le confinement. On a quand même vécu... 2 mois, c'est vrai que quand on sortait, ça pouvait être marquant, de ne plus avoir le bruit des voitures, cette pollution-là. Et voilà, Moi, j'ai vraiment entendu beaucoup, beaucoup de discours qui allaient dans ce sens-là, dans le sens d'un monde qui allait changer au niveau écologique. Et je suis très sceptique là-dessus.
Vous avez un maire qui est...
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que cet événement-là, c'est assez marrant, ça arrive maintenant, tu vois. Effectivement, c'est peut-être pas un hasard, justement. Voilà, il y a peut-être quelque chose, finalement, en termes de prise de conscience, je sais pas.
Est-ce que le Covid a poussé le mouvement vert ou pas?
Il était déjà lancé avant. Enfin,
oui, mais est-ce que c'est ça, là?
Oui, mais possible. Rappelons-nous que les élections... Ça a été avec 20%, il y a 80% d'abstention, alors c'est égal à. Hein? Alors, on attend, on verra.
Ce que moi, qui me venait sur le monde d'après, c'était c'est histoire de pause avec les silences musicaux et tout, mais qu'on connaît habituellement quand on prend des vacances et qui nous permettent quand même, parfois, de nous mettre en recul sur nos pratiques et on repart en nous disant allez, je vais refaire autrement. Et là, on a peut-être tous connu une pause collective et est-ce qu'on va réussir tous à repenser nos positionnements et est-ce qu'on ne va pas se faire réattraper par un rythme extérieur qu'on ne maîtrise pas complètement?
Moi, je peux juste. Ce que tu me dis là, c'est l'écologie. Enfin, je pense à l'écologie humaine et du coup, enfin moi, curieusement, j'étais médecin dans mon cabinet avec le Covid, mais en fait, curieusement, ce qui n'était pas attendu, c'est que mon activité a été divisée par deux, comme tous les soignants. Moi, c'était par deux, mais alors on me dit que les soignants ne peuvent pas s'arrêter, mais la plupart des soignants se sont arrêtés de travailler. C'est quand même ça, ce qui était impressionnant dans cette crise, c'est que
Il n'y avait plus de malades, les malades n'avaient plus.
Tout le secteur spécialiste s'est arrêté, tous les spécialistes n'ont plus travaillé. Les généralistes en moyenne, c'était une moitié d'activité en moins. Et les seules personnes qui avaient la pression, c'était les services de réanimation. Le service des urgences de la Croix-Rousse, l'hôpital de référence en infectieux, 2/3 d'activité en moins aux urgences pour la crise du Covid. Et moi simplement, je me suis arrêté, j'ai travaillé 2 fois moins. Alors au départ, la première moitié du confinement, c'était assez anxiogène parce que voilà, on avait peur de... Oui. Et puis après, au moment, on a compris qu'il n'allait rien se passer. Et du coup, j'ai travaillé 2 fois moins. Alors, quand les gens applaudissaient, moi, j'étais un peu énervé parce que je disais, mais en fait, moi, mon problème, c'est de perdre du fric, quoi. Enfin, du coup, moi, je suis pas héros, je suis juste un mec qui gagne bien sa vie, là, qui va gagner 2 fois moins, et ça lui fout les boules tellement de plus être riche. Enfin, de peut-être plus être riche, mais heureusement... les riches restent riches. Mais surtout, en fait, je me suis installé pendant un mois avec 2 fois moins d'activité, avec 2 fois plus de temps pour les gens. Je pense que ça a complètement changé les relations thérapeutiques en fait, avec certains patients. Ça a dénoué des situations. Je me suis aperçu qu'en donnant 2 fois de plus aux gens, on soignait 2 fois mieux, en gros, franchement. Et du coup, quand la machine est repartie, en fait, ça a été assez difficile de revoir la pression. Et par rapport au monde d'après, je pense qu'il y a... Enfin, pour moi, à titre personnel, j'ai l'impression qu'il y a un point de non-retour, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des choses que je vais changer et qui sont indispensables. Parce que j'ai expérimenté tout ce que c'est que la qualité d'un travail moins speed. Et qu'il y a un moment, quand on goûte à ça, j'espère en tout cas que je ne prendrai pas la vie d'avant, quoi. Et je suis en train de prendre des décisions garder un peu de ça, quoi.
Bon, et bien, messieurs, dames, je vous dis au revoir. Il faut que je rentre.
Il y a Zorba qui t'attend.
Oui, il y a Zorba. Il faut que je le dise.
Merci beaucoup d'être passé.
Bon retour.
À bientôt.
Alors, et tout ce que je veux dire, c'est vive la vie.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, mais c'est marrant parce que la question du temps est venue là, au début de les témoignages, hein, le confinement, c'est une sorte de temps immobile et puis le présent. Il y a un type qui a écrit un bouquin sur l'accélération du temps avec la modernité. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que nos sociétés vont à un moment donné ralentir, alors pas, je ne suis pas un apôtre de la décroissance, pas ça, mais ralentir le rythme des pratiques humaines de telle manière qu'on puisse faire mieux ce qu'on fait mal. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Alors, je voulais, juste, puisqu'on est à Ethnopsie, Et puis, c'est pour faire plaisir à Jean, parce que je sais qu'il aime bien. Il y a un anthropologue qui s'appelle Bruno Latour. Je crois qu'il a fait une rubrique dans, je crois que c'est dans Le Monde, mais je ne suis pas tout à fait sûr, où il propose que tous les ans, les humains se mettent de côté, se confinent d'une certaine manière, une fois par mois, un mois par an, pardon, de telle manière que, justement, ils puissent prendre le temps, le recul, et que les animaux reviennent, la nature, le printemps qui a été... qui a été honoré tout à l'heure de façon, j'ai trouvé extraordinaire, parce que moi j'ai vraiment ressenti cette histoire du printemps aussi. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est un doux utopie. Les anthropologues sont des doux utopiques. C'est Bruno Latour ou vous adhérez à cette idée?
Moi j'adorerais.
Une mise en jachère.
Ah moi j'adorerais. Mais j'ai pensé à ça. Mais moi j'aimerais bien que le mois de mai ou le mois de mars, ou je sais pas,
ce que tu choisis. En mai, fais ce qui te plaît.
Je peux mettre ça au vote.
Ce que tu m'évoques, ça m'évoque la philosophie d'Anna Arendt qui dit que pour faire de la politique, de la belle politique, il faut des temps d'arrêt. C'est-à-dire que pour penser la question politique, il faut s'extraire de ses congénères, il faut avoir une pensée qui n'est pas dans l'opérationnel ou dans l'action. Et s'il n'y a pas ce temps d'arrêt, on arrive à faire n'importe quoi, comme elle prend l'exemple de Eichmann qui était en Asie, parce qu'il n'avait pas cette capacité à s'arrêter. Et du coup, cette idée de la tour est vraiment intéressante.
Par rapport à l'idée de la décroissance, que tu as dit, c'est vraiment intéressant, parce que tu as eu une décroissance du nombre et de l'intensité, du rythme de tes patients, qui a permis une croissance de la qualité du soin et du relationnel. Enfin,
en même temps, il a dit qu'il fallait qu'ils vivent. Hein.
Oui, bien sûr. Mais c'est quand même. Et il a aussi dit qu'il veut quand même essayer de trouver le juste équilibre entre.
Oui,
c'est vrai que la qualité de la vie, ça compte. Moi qui suis artiste, le temps ne compte pas pour moi. Et c'est même très curieux parce que très souvent, je passe des heures et des heures à rater, à faire, à refaire. Et j'ai l'impression que le temps n'a pas passé. Alors que quelquefois 5 minutes, quand on s'ennuie, ça paraît éternel, et quand on est pris dans son travail, c'est rapide, très rapide.
Ah oui, c'est une élasticité.
Ah oui, c'est le temps, c'est difficilement mesurable, suivant ce qu'on fait.
Mais là, on touche vraiment à ce qui nous a été mis en évidence, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe énorme entre ce temps qu'on, franchement, on l'apprécie tous, ce temps qui nous a été donné, pour ceux à qui il a été donné, et puis cette nécessité de croûter, peut-être d'avoir peur de perdre son niveau de vie, à tort ou à raison,
c'est sûr.
Mais c'est ça. Je crois qu'on est beaucoup à être en période de balance, et cette période, elle va durer longtemps.
Alors, tu sais que Edgar Morin, dans un bouquin qui s'appelle La Voix, je crois, dit que l'humain a besoin du prosaïque. Enfin, de vie, de ce qu'il appelle le prosaïque, la prose, et du poétique. Oui. Et moi, je pense que ce qui a été révélé...
On l'a vu ces derniers temps, souvent.
Mais il est fabuleux, je trouve.
98 ans. Non, mais même 100 ans.
On a 100 ans.
100 ans. C'est un type extraordinaire.
90. Je pense qu'il triche un peu.
C'est fait que
la jalousie qui me fait parler.
En tout cas, c'est comme si la période nous avait démontré, on ressent presque très nombreux, que le prosaïque est trop présent et le poétique... trop mis de côté, pas productif. Alors c'est très productif le poétique. Enfin, moi j'enseigne ça et c'est mon cheval de bataille, mais j'y crois profondément. Alors je ne savais pas le formuler aussi bien que M. Morin, je suis bien content d'avoir lu pour pouvoir le redire, mais je crois que c'est vraiment ça l'enjeu.
Oui, il a besoin d'espace et de temps pour se développer le poétique.
Oui. Absolument. Et si on est tout le temps dans le prosaïque, on ne peut pas.
C'est une espèce de dualité là où. Il faut pouvoir manger et en même temps il faut avoir des espaces là, de création.
Christian, contrairement, il faudrait que je regarde davantage la tour là sur ce qu'il proposait, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il peut y avoir les deux options, celle où on pose un temps, qui peut être un mois par exemple dans une année, mais en considérant que les 11 autres mois, c'est déjà acté, qu'on va toujours trop vite, etc.
Ça s'appelle les vacances.
Il y a une démarche qui serait davantage sur la continuité en fait, de ça, et de réinstaurer au quotidien ces espaces, en fait, de retrouver une société qui sait décélérer par elle-même, en sachant s'auto-limiter davantage sur l'ensemble de son temps. Quoi.
Les vacances modernes ne sont pas toujours des moments de décélération.
Bah oui,
mais l'idée de la tour, c'est ça qui est quand même fabuleux. On est dans la mondialisation. Et donc, c'est 3 milliards et demi de personnes qui ont été confinées. C'est pas les vacances seulement. Hein, je veux dire, donc 3 milliards et demi font que effectivement, tu as le taux de carbone qui descend, les animaux qui ressortent. Voilà. Et c'est ça l'idée qu'ils défendent, je pense. Avec, enfin, c'est comme ça que j'ai compris le texte. Hein, avec la perspective que tu annonces, c'est-à-dire que ça rentre dans les mentalités. Mais la question à laquelle on est confronté, si tu veux, dans cette tension dans laquelle on est, c'est comment on met en place une culture collective, si tu veux, qui nous freine. Mmh. Et lui, c'était un moyen terme, c'est-à-dire se freiner un mois par an, si tu veux, de... Mais bon, alors après, il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial. Mmh. On voit bien que c'est utopique, mais en tout cas, l'idée n'est pas inintéressante, parce que c'est une étape, tu vois. C'est... Quelles sont les étapes, si tu veux, collectivement, qu'on peut décider pour effectivement, je crois que tout le monde est d'accord sur l'idée d'une nouvelle forme d'humanisme, de revenir vers. Voilà. Mais c'est la question politique, les étapes. C'est ça la question politique, c'est les étapes.
Ça m'évoque une soirée qu'on avait fait avec mon café, avec Antoine Mutz, là, sur la méditation. Ouais. Et je crois que la méditation, ça pourrait être une solution à. Aller vers une société plus méditative, enfin, on réfléchit pas mal à ça avec nos cafés. Et Antoine, à la fin, disait, enfin, on s'est revu après le travail, et donc lui, il milite pour que la méditation soit apprise à l'école, en fait. Et c'est intéressant cette idée de la culture, c'est quelque chose qui se fabrique, qui se construit, avoir une culture, enfin essayer d'instaurer une culture méditative, c'est finalement c'est ça, l'arrêt c'est aussi ça s'apprend quoi, et l'intérêt, oui. l'intérêt s'apprend, et puis c'est intéressant parce qu'il le démontre scientifiquement comment le fait de pratiquer la méditation 20 minutes par jour, ça change le cerveau et ça permet d'améliorer le lien social, en fait, c'est des travaux vraiment intéressants.
Dans sa dimension individuelle, et moi pour rebondir aux étapes, quand je mentionnais tout à l'heure, qui m'avait beaucoup plu de voir ces personnes qui prenaient enfin en considération des personnes qui sont jamais considérées, les fameux s'emparent de Tonton Jacques, on peut dire ça. Après, là, c'est une étape, clairement, pour moi. Ça, c'est une étape qui est fondamentale dans la perception, de considérer davantage l'autre comme son égal, et peut-être après que ça peut ouvrir sur des champs qui peuvent être intéressants. Donc les étapes, elles sont quand même plurielles, avec différents points, hein. Individuels, le rapport à l'autre, collectif, etc. Et je pense que... s'accumuler, ça.
Qui c'est qui disait qu'on s'est rendu compte que c'était les personnes les moins reconnues et les moins bien payées qui étaient les plus essentielles, les besoins fondamentaux. Est-ce que ça va rester?
C'est intéressant, cette chronologie politique aussi de la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites, puis après les gilets jaunes deviennent les héros. Et du coup, il y a une sorte de renversement là. Et puis après, comme tu dis, on a l'impression que tout ça est en train de déjà.
Sur du temps d'arrêt, ça me faisait penser à la question du travail le dimanche, ça a été désacralisé depuis longtemps, la séparation de l'Église et de l'État, etc., mais qui était quand même resté un temps où on s'arrêtait, et puis où l'économie marchait, les magasins, parce que les gens ne savent plus s'arrêter, il faut quand même pouvoir vivre, donc les seules choses qu'on sache faire, c'est aller faire des courses. Pour certains, peut-être, en tout cas, mais peut-être que, le mois dans l'année, peut-être ça serait déjà redire non. Il y a un jour au moins dans la semaine où on s'arrête tous, et qu'il y a un jour où on peut se retrouver en famille, entre amis, et où on arrête les activités, qu'elles soient commerciales ou à part les choses indispensables que sont la santé. Mais ces temps d'arrêt-là, on sent bien qu'ils étaient mis à mal et déjà attaqués encore avant cette crise. Et c'est peut-être ça qu'il faut arriver à repenser, des temps de pause et d'arrêt. Peut-être au quotidien, en faisant la méditation tous les jours, et peut-être une fois par semaine, en se disant on resacralise ce jour du dimanche.
Tu viens d'employer un mot qui est hyper important, c'est on sacralise. Tu veux, le dimanche, c'est le jour du Seigneur.
Oui, je sais bien,
c'est le jour du Seigneur. Donc, si tu veux, tu as une transcendance collective qui s'appelle la religion, peu importe la religion, qui fait qu'à un moment donné, une société, si tu veux, se dit on s'arrête tel jour, le dimanche.
Bon, Ramadan. Shabbat.
Toutes les religions ont ça. Sauf que la sécularisation de nos sociétés fait qu'effectivement on mord sur cette transcendance-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus, surtout en France où on a beaucoup plus d'incroyants que de croyants. Mais alors quelles sont les nouvelles transcendances, si tu veux, qui permettront de sacraliser, si tu veux, le fait qu'on s'arrête tous? C'est une question hyper importante. C'est-à-dire, est-ce que c'est le jour de la nature, tu vois, et est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu penses qu'il y a quelque chose qui te surplombe, qui est plus important que toi et qui est indispensable si tu veux, pour qu'une société fonctionne. C'est de ça dont il s'agit en fait. Hein. Et c'est pas simplement la tension entre l'économie, parce que finalement l'économie c'est aussi du lien social. Quand les règles du jeu, en tout cas, sont à peu près honnêtes. Mais quelles sont les formes de transcendance, tu vois, qu'on peut inventer
La Terre-Mère, c'est une raison écologique. Tu n'as pas l'impression que c'est...
Ça existe déjà.
Non, je pose la question. Moi, je n'ai pas de réponse personnellement.
Sans besoin de transcendance, et j'ai l'impression qu'on le trouve aussi dans cet engagement dans l'écologie ou dans ce retour à la nature ou dans... ces vidéos de biches qui arrivaient dans les villages, sur la plage du village la nuit, pendant le confinement, on a l'impression d'un retour à quelque chose de transcendant, redonnant toute sa place à la nature. Moi, j'ai l'impression que...
Ou peut-être les neurosciences vont nous amener à connaître l'intérêt. Tu disais que la méditation change le cerveau. Si c'est quelque chose qui est prouvé, que c'est bon, parce qu'il y a toutes les entrées possibles pour être convaincant. Il peut y avoir la transcendance, mais il peut y avoir aussi l'écologie de soi. Et si les neurosciences apportent la preuve que telle façon de s'arrêter, telle façon de méditer apporte un meilleur équilibre à l'humain, ça peut parler aussi.
L'équilibre commun, c'est aussi avec soi, en fait. Nous sommes des additions les uns aux autres, et c'est dans les changements propres que finalement on arrive à toucher. Alors un mot qu'on a souvent employé, qui était la notion de lien, ce Covid a permis aussi des liens très très forts avec des créations, comme vous l'avez fait, vous, à votre niveau, mais des créations en termes de société civile. Parce qu'on parle beaucoup de société construite depuis tout à l'heure. Finalement, ce qu'a mis en place le citoyen, l'esclave, on va dire, étatique, et finalement...
Esclave étatique, ça,
c'est... Oui, alors, c'est peut-être... Ouais, trop avancé, mais dans mes opinions. Mais effectivement, on parle de toute cette structure qu'a créée l'humain, et on en oublie finalement que nous sommes les hôtes de la planète, de cette terre qui finalement dans sa nature nous ramène justement à se centrer et à comprendre que on ne pourra pas imposer. Et ce lien est important parce qu'il permet aussi d'avoir récupéré certaines personnes. Je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être une scission de deux sociétés, effectivement celle qui continuera dans ce mouvement de surconsommation avec la Chine au lendemain du déconfinement qui fera 20 millions de chiffres d'affaires chez Hermès. Il y a cette société-là, et puis une autre qui effectivement réfléchit le fait que nous-mêmes aujourd'hui on communique. C'est des prises de conscience, peut-être en rentrant chez soi, de dire bah, « tiens, je vais aller encore plus loin parce que j'ai appris quelque chose qui m'a inspiré, qui me permettra d'avancer, en fait. »
Alors, moi, à propos de communication, il y a quand même une chose qui me frappe, moi qui marche beaucoup, c'est de voir tous les gens dans la rue avec leurs trucs aux oreilles, ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Et ça, mais je trouve ça incroyable. C'est des gens qui ne voient pas ce qui se passe dans la rue, qui ne voient pas leurs voisins. Et qui communique. Mais ça, c'est une communication que je ne comprends pas.
Comme il y a eu une communication à des balcons, donc il y a deux jours, fêté en fait le fait que pendant deux mois, on s'applaudissait, entre guillemets, alors enfin, oui. On n'est pas parti, mais c'était l'immeuble l'un en face de l'autre. Oui. Et du coup, en fait, le fait que les gens s'attendent à 8 heures, on commençait à se parler. Oui. Et on organisait un apéro, on était en pleine rue, oui. À Saint-Bruno, oui. Pour finalement parler, échanger de ce qu'on avait vécu.
Oui.
Donc oui, c'est peut-être que là, maintenant, après, et que ça continuera à voilà. Mais j'aimerais croire que finalement, ça a récupéré, bon, comme cette image du colibri, mais ça a récupéré quelques personnes qui seront prêtes aujourd'hui à, dans une décroissance ou dans un engagement personnel, à en parler, à échanger pour inspirer d'autres personnes.
Juste pour accompagner la fin de la discussion.
Oula.
C'est pour moi, je
crois. C'est Francis qui nous offre ça et du coup on va le boire ensemble.
Merci beaucoup.
On va faire la fête.
Moi j'ai l'impression qu'on a cassé des coques, hein, ça c'est sûr. On a cassé des murs psychologiques et tout ça, ça c'est clair, hein, puisque. Moi, je le sens dans ma relation avec mes patients actuellement, mes aspirations qui rencontrent des aspirations de personnes que j'aurais jamais imaginé qu'on avait des affinités telles. Donc, il y a vraiment plein. Puis, je vois dans plein de choses hein, la manière dont les gens vont me sourire dans la rue, me dire bonjour.
incroyable. Enfin, des choses, mais qui, moi, ça m'excite. Donc, on a cassé un truc.
Aussi, oui.
Est-ce qu'on va réussir à ne pas le reconstruire? Parce que ça fait flipper quand même d'ouvrir comme ça, hein, et à un moment donné. Est-ce qu'on va réussir? C'est ça. Je crois que l'enjeu, il est là. Si on arrive à accepter de continuer de casser tout ça, peut-être qu'on arrivera à créer effectivement le chemin.
Mais pas seulement avec la proximité. Moi, j'ai vécu avec des distances très loin, avec l'Afrique, le Vietnam.
Ah, mais évidemment.
Et c'est pour ça que c'est dire que cette dimension.
Moi, je parle de ma petite vie, de ma petite vie.
Et moi, si tu veux, c'est intéressant parce que les gens disent effectivement. Merci. Il y a la proximité, mais il y a aussi la distance. Moi, j'ai pu rétablir des contacts avec des gens très loin, en Afrique.
Mais par Skype, tu parles.
Oui.
Téléconférence, pas en présence.
Mais autrefois, on n'aurait pas. Mais des complicités.
Oui, je suis complètement d'accord.
C'est exactement ce qu'il dit. Donc,
des rapprochements.
Alors que moi, j'étais frustré
parce que
j'ai
condamné
mon contact.
Je crois qu'il y a des choses qui ont été universelles dans la réflexion. Par exemple, il n'y a pas eu un seul français, beaucoup de téléphones. Jamais un coup de fil n'a duré moins de 30 minutes. Et énormément de gens ont vécu ça, par exemple. Et que, dès que le confinement s'est arrêté, on a repris l'usage du téléphone, on a repris des liens. Je crois que ça a aussi fait des choses.
Ça a été vraiment comme ça brutalement, parce que ça a donné cette espèce de prise de conscience qu'on est dans une structure complètement artificielle et conditionnée. Et quand on était quelque chose
Un truc un peu impersonnel.
Alors finalement, il y avait une marge de choix.